Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve déjà pour la seconde interview croisée de cette mini-série d'épisodes. Et aujourd'hui, j'ai invité mon amie Sarah pour l'interroger sur les trois questions que je pose à tous mes invités cette semaine. Si tu n'as pas encore écouté la première interview avec Solveig, je t'invite à prendre le temps de le faire car nos échanges ont été extrêmement enrichissants. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, j'ai le plaisir de t'annoncer officiellement que Sarah sera mentor dans le Winter Club qui arrive tout bientôt. Elle interviendra pour partager avec les membres les clés de sa réussite et toutes les stratégies de communication qui lui apportent aujourd'hui énormément de visibilité. Je t'en dirai plus à la fin de l'épisode, mais tu peux d'ores et déjà aller voir en description pour t'inscrire sur la liste d'attente de l'événement. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Sarah.
Salut Jérémy.
Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast, pour cette mini-série d'épisodes d'interviews croisées. On se suit depuis très longtemps. On se connaît depuis un bon nombre d'années. J'ai toujours trouvé ton parcours inspirant parce que tu as cette faculté à être assez authentique, je trouve. Une faculté aussi qui est importante dans la vie à arriver à te remettre en question pour faire des choix parfois, j'allais dire drastiques, en tout cas pour prendre des vraies décisions qui t'amènent à un endroit particulier. Parfois, ça t'arrive de revenir dessus, parfois non. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton point de vue, d'avoir ton retour dans ces mini-épisodes pour qu'on puisse se rendre compte de comment on peut arriver à fonctionner, à réussir dans la photographie, à peut-être faire une pause, à revenir, à trouver des stratégies qui nous correspondent profondément et finalement à s'adapter tout le temps à un marché qui est en constante évolution.
Ok, écoute, pour démarrer, merci
beaucoup. Avec plaisir. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
Oui, ben je m'appelle Sarah Ami, je suis photographe depuis 10 ans en vrai, parce que j'ai toujours gardé mon entreprise, même quand j'ai fait mes pauses, j'avais toujours mon entreprise, donc depuis 10 ans, même un peu plus de 10 ans, et je suis maman de deux enfants aussi, et voilà, j'ai commencé la photo un petit peu comme tout le monde, à essayer un petit peu de tout faire, et pour au final, avec le temps et les années, réussir à me spécialiser vraiment dans la photographie de famille.
Ok. Trop, trop bien. Je vais te poser ma première question, qui est la suivante. Quelles sont les trois choses, selon toi, qui ont eu le plus d'impact depuis que tu es lancée?
Oui.
À ton démarrage ou au fil des années, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément qu'au début.
Bah déjà, la première chose, évidemment, c'est les enfants. Les enfants, même si finalement, je les ai bien plus tard, parce que mon entreprise, je l'avais lancée en 2012. Et j'ai eu ma fille en 2016. Donc, tu vois, il y a quand même une marge énorme. Et pourtant, c'est ma fille en premier qui a tout révolutionné dans mon business. Parce que dans la foulée, en plus, j'ai fait une grosse formation où voilà, c'était ma fille, les chamboulements de la maternité. Et puis après, j'enchaîne sur une grosse formation. Ça, vraiment, ça a impacté mon business parce que j'ai pris conscience de plein de choses, de ce que je voulais vraiment. Là, tu travailles plus que pour toi. Que pour toi, tu travailles aussi du coup pour tes enfants, pour ton enfant en l'occurrence, j'en avais qu'un à ce moment-là. Et franchement, ça m'a vraiment bouleversée dans ma façon de penser déjà. Et voilà, et dans tout le reste, quoi.
Du coup, tu vois vraiment un avant, un après. Je comprends vraiment ce que tu dis parce que moi, quand j'ai eu mes enfants, à chaque fois, ça a été une énorme remise en question. Et avant d'avoir Raphaël, donc, que j'ai eu avec ma compagne, j'ai commencé à vivre avec donc Elodie, ma compagne, et sa fille. Et en fait, rien que d'avoir un enfant dans le quotidien, je trouvais que ça me donnait une perception complètement différente de qu'est-ce que la famille, quels sont les moments qui sont importants, qu'est-ce que j'ai envie de photographier, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, quoi.
Exactement, c'est que ça te donne... Déjà, tu comprends vraiment ce qu'est une famille. Tu sais un petit peu plus t'adapter à un enfant, parce que quand t'as pas d'enfant, bah, t'arrives à faire des jolies photos et tout, mais t'es pas à la place du parent, en fait, t'arrives pas à te projeter comme le parent, et du coup forcément tu comprends un peu moins les attentes des parents. Et là, clairement, dans le business, ça change absolument tout. Et évidemment, ça change aussi au niveau organisation, parce que ben, pour ton compte, il faut aussi
Ouais.
t'organiser. Mais du coup, non, ça a vraiment changé ouais, la vision, l'approche, la connaissance en fait de mes clients et la partie organisation du business.
Trop bien. Il y a autre chose qui t'a impacté comme ça?
Alors, pas directement. Pas directement. Il n'y a pas une chose en particulier, en fait. Mais l'accumulation de plusieurs qui font qu'aujourd'hui, ben, j'ai l'impression d'être plus au clair dans mon business, de savoir un petit peu plus où je vais. Et ça, c'est le fait de pouvoir tester plein de choses. C'est-à-dire que moi, je suis attirée par plein de choses. J'adore le marketing, le business de manière générale. Je suis très manuelle. Enfin, je vais être attirée vraiment par tout plein de choses différentes. Et des fois, on se dit, oh, ben, peut-être que ça, en fait, ça me convient un peu plus, ou peut-être que ça, c'est plus cool à faire, ou peut-être qu'avec ça, je vais gagner plus d'argent. Enfin, toujours ce. Et j'avais toujours la photo quand même derrière, je gardais toujours quelques séances et tout, même si je communiquais plus trop et tout. Il y avait toujours, genre, un petit peu le côté sécurité avec la photo, mais je m'en allais tester d'autres univers business. Et ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Ça m'a appris que l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. Ça m'a appris que ça m'a apporté pas mal de compétences en communication, encore plus en marketing, parce que du coup, je suis passée de la vente de services à la vente de produits, en logistique, en organisation, en voilà. Et enfin bref, tous ces petits tests aussi, pareil, j'essaie de faire du business en ligne avec des formations que j'avais essayé de donner et tout. Et puis en fait, je remarque que moi, il me fallait un équilibre, en fait, entre être derrière un ordinateur et être à l'extérieur, enfin en tout cas avoir le lien avec la nature. Et finalement aujourd'hui, je capte que je l'ai juste énormément grâce à la photo, quoi. Parce que c'est vraiment mon axe aujourd'hui en plus principal. Mais voilà, c'était cette espèce d'accumulation de tests, d'erreurs ou de réussites par moment, mais qui n'étaient finalement pas faites pour moi, en tout cas réussite sociale, m'ont amené aujourd'hui à ce que je veux vraiment. C'est ça le développement personnel en gros.
Ah, c'est hyper intéressant. Et tu vois, c'est vrai que ma question, c'est les trois choses qui ont eu le plus d'impact. Et
Ouais.
tu as raison, en fait. On peut arriver à ressortir bon, trois éléments principaux, mais c'est vrai que souvent, l'impact qu'on a à la réussite, c'est dû à. Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin, il y a un bouquin qui s'appelle L'effet cumulé. Et c'est justement le principe de dire que le résultat final, à un instant T, il est dû non pas à une action en particulier, en réalité, mais à une succession, une multitude de petits événements, de petites actions qui, toutes mises bout à bout, vont créer quelque chose, un effet cumulé d'extrêmement beaucoup, d'extrêmement puissant, d'extrêmement, de beaucoup plus gros, en quelque sorte.
Ouais.
Et je pense que c'est exactement ça. Et tu soulignes quelque chose qui est fondamental, qui est, tu l'as pas dit comme ça, mais je l'entends comme ça, la curiosité de vouloir aller voir un petit peu à droite, à gauche, ce qui se fait, ce qui se passe, de tester dans des univers aussi différents de celui de la photographie. Et ça, je pense que c'est une énorme richesse parce que parfois, on a tendance à s'enfermer, je trouve, dans son métier avec des gens qui font la même chose que nous, qui sont comme nous, qui pensent comme nous et tout ça. Et de s'ouvrir aussi à d'autres univers, de s'ouvrir à d'autres personnes, de s'ouvrir à d'autres perspectives, tout simplement. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement riche et qui peut avoir un impact énorme sur la partie photo, en fin de compte.
Oui, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça parce qu'en plus, ça me fait penser que quand tu fais plein de choses comme ça, je trouve que c'est ce qui permet aussi de. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment du développement personnel quelque part. C'est de réussir à te connaître pour vraiment après adapter un business en fonction de toi. Et très souvent, on a une image toute faite du business, on est plein d'a priori, il faut, je dois, quoi. Et en fait, enfin, du coup, on fait les choses machinalement, on fait les choses pour la reconnaissance, on va faire les choses parce que c'est comme ça qu'on doit les faire. Et en fait, ben, quand tu passes de temps à aller un peu à droite, à gauche, à aller te chercher et à t'ouvrir, tu remarques qu'en fait, il y a plein de manières différentes de faire les choses. Et c'est hyper intéressant.
Ah, c'est trop intéressant. Et du coup, il y a une troisième chose qui, tu penses, t'a impacté?
Oui, mais c'est la même manière que la deuxième. C'est l'accumulation. Et en plus, c'est assez récent, j'ai envie de te dire, parce que j'ai toujours entendu plein de choses. Tu sais, des fois, on te répète des phrases. Depuis le début, on t'entend des phrases, des choses qui reviennent. Tu les entends, tu les comprends un petit peu, mais tu as du mal à les intégrer. Je ne sais pas comment l'expliquer ce concept, mais c'est vraiment, tu t'entends, tu comprends, tu dis oui, mais, ou ouais, mais quand même. Et en fait, quand tu comprends, c'est comme s'il y a une espèce de voile épais qui s'en va et tu te dis, pouah, en fait, ça y est, j'ai compris. Et le truc que j'ai compris, c'est que là, vraiment, ça part d'un gros développement personnel, hein. C'est qu'à la base, quand je faisais les choses en tant que photographe, dans mon business, c'est que je les faisais pour servir, bon, mes clients certes, mais je voulais vraiment être reconnue par les autres photographes, par ceux qui étaient plus reconnus, ou par ne serait-ce que les collègues du coin avec qui on avait lié d'amitié. J'avais besoin d'être reconnue par eux, et aussi, j'avais un grand besoin de reconnaissance sociale. Donc en fait, au lieu d'aller servir directement mon entreprise, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais servir ce besoin de reconnaissance auprès des photographes et auprès du social de manière générale. Donc, en fait, au lieu de me focaliser sur, tiens, je vais développer une clientèle, en fait, je me focalisais sur, je vais développer mon image, l'image de mon entreprise. Alors, c'est bien, c'est important l'image de son entreprise. Mais ça ne suffit pas, des fois. Des fois, on peut avoir une super image, mais derrière, pas forcément booker toutes les séances. Et pendant plusieurs années, dans la photographie, j'ai fait ça. Donc, j'allais nourrir, j'avais de plus en plus de compétences. Et du coup, ben, j'allais partager, j'allais comparer, j'allais, voilà, j'étais plus. Pareil, je commençais à être bonne aussi en communication et tout. Je faisais une communication aux oignons, je savais montrer que j'avais des clients, même si je n'en avais pas beaucoup. Enfin, je savais en gros créer une super image, mais je le faisais pas pour la bonne raison, pas pour mon entreprise. Et ça, bah, quand tu comprends qu'en fait tu dois travailler pour toi, pour ton entreprise, et que ça doit être ton petit bébé, et que c'est pas le reste, et que tu décroches de ça, bah, je pense que ça change tout dans le business.
Et c'est hyper intéressant. Comment tu as réussi à dépasser ça? Parce que tu vois, moi, je vois beaucoup de photographes qui, mais en général, c'est pas propre à la photographie, d'ailleurs, de personnes qui cherchent à vivre un petit peu la vie d'autres personnes ou qui sont dans cette recherche de reconnaissance et qui vont poster des photos, communiquer, non pas pour leurs clients, mais pour leur père, entre guillemets. C'est-à-dire pour qu'un photographe lambda qu'ils admirent, un jour, avec l'espoir qu'ils viennent leur dire « Ah, ce que tu fais, c'est génial, tu vois. » Alors ça peut flatter l'ego, ça remplit sûrement une blessure, mais en vrai, comme tu dis, c'est pas ça qui amène des clients, c'est pas ça qui te fait vivre concrètement. Comment tu as réussi à dépasser ça pour arriver à un stade où tu as fait les choses beaucoup plus pour toi, pour ton entreprise, comme tu disais, en mettant le reste de côté?
Bah déjà, c'est le deuxième point, c'est que j'ai beaucoup expérimenté, tu vois. J'ai beaucoup expérimenté et il y a beaucoup de travail sur moi-même, en fait, sur la compréhension. Bah, je fais du développement personnel depuis 2012 aussi, depuis la création de mon entreprise. Je pense que quand tu deviens entrepreneur, tu fais du développement personnel, enfin, tu essaies d'évoluer. Et du coup, bah, j'ai lu des livres sur les relations humaines, la psychologie, enfin, sur plein de choses. Et du coup, bah, voilà, je travaille sur moi de cette manière-là. J'essaie de comprendre certains concepts, en gros. Et j'essaie d'analyser, de m'analyser, voilà, tout simplement. Et ça, plus l'expérimentation, et puis petit à petit, enfin, moi j'avais une année, plusieurs fois, je me suis dit, oh, j'ai eu un déclic, j'ai eu un déclic. Et toutes les semaines, j'avais un déclic, en fait, tu dis. Mais c'est ça, c'est qu'on comprend des choses, et voilà, c'est juste avancer, et je sais pas, c'est juste, ouais, avancer. Après, il n'y a pas de avant-après, c'est pas, il y a eu un gros truc, tu vois, et pouf, du jour au lendemain, j'ai changé. En fait, c'est petit à petit, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on entend, mais qu'on n'intègre pas. Mais à force de les entendre, tu dis, bon voilà, et tu expérimentes, tu fais un truc, et ça y est, bah, tu y arrives et tu te détaches petit à petit, en fait, de ce besoin-là. Et voilà. Et puis pareil, je pense qu'il y a aussi le fait que, vu qu'aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux, que j'ai expérimenté pas mal de choses, que j'ai expérimenté le fait, par exemple, d'avoir un studio, pareil, j'ai ouvert un studio quand même, j'ai eu un studio photo, comme les photographes rêvent, tu vois. Parce que du coup, quand on me demandait, première grosse formation que j'avais fait, on m'a demandé c'était quoi mon entreprise rêvée. En vrai, c'était hyper difficile de me projeter. Tu vois, tu dis, tout le monde se dit il faut se projeter, donc comment on se projette? On se projette un petit peu dans le rêve des autres, parce que quand on n'est pas sûr du sien. Donc on va se dire, bah, je veux un studio, du coup, tu l'imagines bah, comme ça, avec la possibilité d'aller dans différents décors, avec. Du coup, je m'étais imaginé ce studio-là, et puis un jour, j'ai pas eu ce studio-là, mais j'en ai eu un peu plus, parce que j'ai évolué, j'en ai eu un peu plus en lumière naturelle, cocooning, avec la belle déco. Bon, le truc trop bien, tu vois. Et je suis restée 2 ans dedans. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce qu'en fait, je faisais beaucoup de séances extérieures. Déjà, j'avais une clientèle qui préférait l'extérieur. Et moi, je préférais l'extérieur. Et en fait, j'avais un studio. Pourquoi faire? Pour finalement aller à l'extérieur. Donc en fait, niveau rentabilité, tu vois, c'était pas non plus ouf. Mais ça, si je l'avais pas vécu et qu'avec le temps, voilà, ben, enfin, j'aurais pas compris ce que j'ai compris aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que mon rêve, il est de faire, enfin, mon rêve, en tout cas, aujourd'hui, parce que ça peut encore changer, hein. Mais je le sens, mais ça, j'en ai parlé il y a très peu encore à une amie, c'est que je sais aujourd'hui vraiment ce que je veux, alors qu'avant, comme je dis, je savais pas, je me calquais un petit peu sur le rêve des autres. Donc là, ce que je veux, c'est bon, pouvoir toujours gérer mon temps, être en extérieur pour faire de belles photos avec des rayons du soleil, du coucher de soleil, tu vois, des trucs hyper chaleureux. Je veux finalement, oui, une petite boutique. Mais alors pas pour un studio photo, mais je rêverais en fait d'avoir une petite boutique dans mon village, mais vraiment dans le centre, avec vraiment, tu vois, les petites moulures couleur verte, avec marqué la boutique de Sarah, et tu viens, t'as mes belles photos affichées, quelques photos de nature provençale que je pourrais vendre un petit peu en mode tableau. Et derrière, bah, juste, je vends mes services sur place, quoi, tu vois, ou alors je fais de la réception, ou alors ils viennent chercher leur livre photo et tout, mais je veux juste mon petit truc, mais parce que ça me fait kiffer. C'est dans mon village, c'est provençal, c'est nature, c'est ma petite boutique que j'adore, parce que j'adore le commerce, j'adore accueillir les gens avec chaleur. Mais ça, je l'ai compris, mais là, que récemment, en fait. Tu vois? Mais parce que j'ai expérimenté le gros studio, j'ai expérimenté juste le domicile, j'ai expérimenté la boutique en ligne qui marche super bien avec pas mal d'abonnés sur les réseaux. Bah non. Voilà, c'est juste le temps et l'expérimentation, quoi.
C'est j'adore. Derrière, il y a la notion que tu exprimes l'importance aussi d'avoir une vision, peut-être.
Ouais.
Ce qui est plus souple, plus fluide pour toi aujourd'hui, c'est le fait de savoir, tu disais, si tu n'as jamais su aussi bien ce que tu voulais. Et forcément, c'est plus facile de se mettre en mouvement, de créer ce qu'il y a besoin de créer quand on sait où on va, quoi.
Ah, mais carrément. Là, du coup, tu vois, la ligne, elle s'est faite toute seule. Il n'y a presque pas besoin de l'écrire. Et tous les jours, tu es motivé aussi, parce que ça, tu gagnes en motivation, parce que tu sais vraiment ce que tu veux. Du coup, tous
Ouais.
les jours, tu as envie d'avancer toujours plus vite, parce que tu as hâte d'atteindre un petit peu ce que tu veux, quoi.
Ouais,
Et de
carrément.
continuer.
Ouais. Ma deuxième question, Sarah, est la suivante. Quelle stratégie tu conseillerais à un ou une photographe qui souhaite développer son activité? Quelqu'un qui est en lancement ou quelqu'un qui est installé depuis plusieurs années, qui galère un petit peu, tu vois. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que tu aimerais partager en mode, concentre-toi là-dessus ou plutôt là-dessus, tu vois, en termes d'un petit peu de stratégie.
Je pense qu'il y a plein de stratégies possibles. Encore une fois, je pense qu'il faut expérimenter. Et si, à la limite, je peux conseiller un truc, c'est bon, c'est expérimenter, mais je vais donner un exemple pour argumenter le mot, pour qu'il y ait un exemple vraiment concret. C'est que aujourd'hui, si tu vas sur mon compte Instagram, j'arrive à faire des réels. C'est peut-être pas les plus cool réels du monde, mais voilà, j'arrive à faire des réels où je suis dessus, où j'arrive avec moi à avoir mon côté un peu fun et un côté un peu sérieux. Même si ce n'est pas les meilleurs montages du monde, c'est des montages qui sont en rythme et qui sont bien. Et j'arrive à montrer la caméra aussi en story. Mais ça, il y a quelques années, je n'osais pas du tout me montrer en vidéo. Et comment j'ai réussi à le faire? J'étais sur des groupes de photographes, je prenais mon téléphone et j'avais le stress, mais qui montait avant, parce que j'ai toujours aimé partager. Ça, par contre, c'était aussi pour ça que je suis avec toi. Mais j'adorais partager des prises de conscience et tout. Et généralement, je ne faisais par écrit. Un jour, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à faire des vidéos. Et du coup, je prenais mon téléphone et j'allais faire des lives sur les groupes dédiés aux photographes. Je me suis dit, au pire, s'ils me critiquent ou qu'ils ne me trouvent pas bien, c'est pas grave, c'est des photographes, c'est pas mes clients. Et au moins, je partage aussi ce que je fais. J'ai fait plein de conneries et tout, mais vraiment, juste avant d'allumer le téléphone, j'étais en mode, allez, je respirais et tout comme ça, on aurait dû être malade.
J'adore.
Et après, je prenais mon téléphone et j'avais l'impression d'avoir la voix qui tremblotait. Personne ne captait rien. Tout le monde me disait, oh, t'es hyper à l'aise. Ouais, bien sûr, mon cul. Et après, j'étais presque, j'avais envie de pleurer à la fin, une fois que c'est éteint. Oh, voilà. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. C'est se dire, c'est pas parce qu'il y a des personnes, oui, qui, c'est inné, enfin, ou alors elles ont vraiment pas de complexe et elles prennent le téléphone et ça y est, c'est parti, parce qu'elles sont captivées par ça. Moi, c'était pas inné, hein. Et en fait, juste, ça me donnait envie. Par contre, il faut avoir l'envie, évidemment. Ça me donnait envie, j'avais envie d'être à l'aise devant les vidéos et j'avais envie d'atteindre ce niveau-là. Et donc, ben, j'ai fait. Et plusieurs années après, ben, j'arrive un petit peu mieux.
Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expérimentation aussi qui mène à ça.
Mais totalement.
Et c'est intéressant ce que tu dis, plus ça va, plus j'ai le sentiment que la meilleure stratégie, en tout cas pour démarrer, c'est pas une stratégie technique, c'est pas une stratégie complexe, c'est une stratégie qui repose seulement sur la visibilité. C'est un peu ce que tu dis, tu vois, c'est... se rendre compte qu'on a des peurs, qu'on a des limites, c'est de les dépasser. Et derrière, c'est essayer de simplement, tu parlais des réels que tu fais, je trouve qu'ils sont hyper inspirants, tu vois, juste faire en sorte d'être visible le plus possible. Et puis après, le reste, ça va venir, ça s'apprend, la technique, d'autres stratégies. Et je trouve que c'est quelque chose que tu fais très bien dans ce côté-là, sur la communication, sur le côté. Parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre, tu vois. C'est-à-dire, tu peux faire le meilleur photo du monde, être la personne la plus sympa, avoir l'expérience la plus ouf. Si personne ne sait que tu existes, en fait, ça ne peut jamais marcher, tu vois. Et
Ouais.
alors qu'à l'inverse, si tes photos, elles sont moyennes, tu arrives à sortir de cette comparaison dont tu parlais et que tu arrives à te montrer, à rayonner, à être visible, tout simplement, bah, tu as beaucoup, beaucoup plus de chances que ça fonctionne, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais.
Ouais, en fait, je crois que tu as bien résumé le truc. Donc oui, le conseil à donner, finalement, il revient à ça. C'est en gros juste travailler à être visible. Et du coup, bah, pour être visible, il faut se montrer, montrer ce qu'on fait et le montrer correctement aussi. Parce que, et il faut le montrer de manière à ce que ça serve aussi notre message et donc notre positionnement. Parce que tu parles, je sais que toi, tu t'expliques vraiment ce que c'est le positionnement et tout, mais il suffit pas de dire, bon, mon positionnement, c'est choisir cette clientèle cible, je propose telle offre et de telle manière. Parce qu'en finalement, si tu la communiques pas bien, ton positionnement final, c'est plus du tout celui de base, en fait. Et le positionnement réel, c'est celui que tu communiques. Et je pense que ça, il y a un vrai écart en disant, c'est bon, mon positionnement, il est bien. Mais tu communiques pas bien. Du coup, non, en fait, ton positionnement, il est plus bien. Et ça, c'est un gros travail à faire. Il y a vraiment un gros travail de travailler son œil autant pour la photographie, pour faire de beaux cadrages, de faire de belles images, que pour savoir mettre les choses en valeur. Parce que c'est
Le
ça la
storytelling,
communication,
par exemple, des choses
finalement.
comme ça. Pardon, je t'ai coupé. Le
Ouais, c'est story. Non, mais
storytelling.
c'est ça. Storytelling, mais pas que. Parce que t'es pas obligé d'avoir un storytelling pour que quelque chose soit beau. Mais je veux dire, par exemple, tu mets une jolie photo. Tu la mets sur un mur pourri, qui est crasseux, avec un cadre dégueulasse, ta photo, ça va pas être pareil. Tu mets cette jolie photo sur un mur en pierre ou un mur propre, avec un joli cadre en bois, avec une marquise blanche, clairement, ça va changer la donne et ça va attirer l'œil. Mais c'est un petit peu ça. C'est savoir choisir le beau mur, le beau cadre et l'environnement global pour communiquer en fait son message. Et c'est
Ouais,
ça.
derrière storytelling, c'est vrai que j'entendais pas forcément le storytelling du contenu, mais le
Ok.
storytelling un peu de sa marque, ce que tu disais
Oui.
là, tu vois, de la mise en scène, d'arriver à exprimer son offre, à arriver à exprimer qu'est-ce qu'on apporte aussi de manière personnelle, toutes ces choses-là, quoi.
Oui, mais c'est totalement ça.
Ouais.
Et ça, pareil, ça se détermine un petit peu avant.
Et tu vois, ça me fait penser. Il y a beaucoup de photographes. Aujourd'hui, toi, tu fais des réels. Je trouve que c'est quand même, ça fonctionne quand même assez bien. En plus, je trouve qu'au final, c'est quand même assez sympa de s'y prendre au jeu et d'en créer et tout. Et il y a beaucoup de photographes qui sont bloqués, tu vois. Et parfois, dans la stratégie, je trouve qu'il y a une part de l'importance de s'écouter, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on veut faire, tu l'as dit. Mais en même temps, si on utilise une stratégie juste purement personnelle, parce que le truc, ça nous inspire, mais qu'il n'y a pas de potentiel, ça ne marche pas. Du coup, co comment, qu'est-ce que, est-ce que tu auras un conseil à donner, tu vois, des photographes qui se disent, bon, ben, je me rends compte qu'il faut que je me lance dans les réels et qui ne savent pas trop comment faire. C'est ce que tu disais, c'est tester, c'est se mettre en danger. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais conseiller?
Oui, bah ils peuvent après je sais pas, se regrouper avec des personnes qui ont les mêmes objectifs aussi. Tu vois, pour peut-être déjà passer. Si on n'est pas à l'aise en vidéo, c'est qu'on n'est pas à l'aise à le faire aussi devant des inconnus ou des personnes qu'on ne connaît pas bien. Donc en fait, peut-être que l'exercice, c'est déjà se rencontrer avec des personnes, pas forcément photographes, hein, mais qui ont les mêmes objectifs à côté de chez soi. Et bah, vu que tu n'es pas à l'aise en vidéo ou que tu n'es pas à l'aise avec des gens, bah, tu vas aller et tu vas essayer de, je sais pas moi, sortir une blague. J'en sais rien, mais ou essayer de faire un truc, ou essayer de prendre la parole quand il y a beaucoup de monde. C'est plein de trucs comme ça, et ça, c'est déjà un premier pas. Et après, vous pouvez aussi, du coup, travailler ensemble à essayer de faire des réels de votre côté pour casser. Parce qu'en vrai, c'est le gène. Le truc qui fait qu'on n'arrive pas devant l'appareil photo à faire quelque chose, c'est parce qu'on est gêné, parce qu'on se sent ridicule. Tu vois?
C'est
Donc,
un
il faut savoir
blocage
pourquoi on
purement
se sent
personnel.
ridicule. Ah oui, mais totalement. Donc, on se dit que ça marche, mais déjà, il faut voir aussi le côté fun. Parce que je veux dire, on se dit que ça marche, et du coup, on veut le faire, mais on se force, du coup, c'est pas. Je pense que plus on fait, comme j'ai dit tout à l'heure, plus ça marchera. Mais je pense aussi qu'il faut donc s'entraîner, mais aussi voir le côté amusant, tu vois. Moi, vraiment, dans ma vision long terme, je me vois vraiment, j'ai des moments dans ma journée, et je me dis, putain, en fait, le moment où je communique, là où je vais faire mon réel, c'est le moment où je vais m'amuser. C'est du business, mais je m'amuse, c'est trop bien. Quand je fais des photos, je suis avec des clients, c'est trop bien, je suis dans la nature. Je fais ce que j'aime. Bon, quand je suis derrière l'ordinateur, je fais le traitement. C'est le côté un peu plus chiant, mais j'essaie d'être créative et du coup d'aller de peaufiner. La comptabilité, bon, maintenant c'est vite fait grâce à Photo Studio, donc c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a la partie communication que j'adore, où du coup, moi j'aimerais passer vraiment 80% de mon temps à communiquer parce qu'en vrai, tu rigoles, tu fais des conneries sur les réels, tu partages, tu rigoles avec les gens. Enfin, voilà, c'est juste capter qu'en fait, c'est drôle, quoi. Retrouver son âme d'enfant aussi.
Est-ce que, tu vois, quelle part Quel pourcentage, je sais pas, c'est difficile à dire peut-être, mais quel pourcentage tu donnerais à la communication? Parce que tu vois, tu disais, j'aimerais passer 80% de mon temps à communiquer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photographes qui sont tout le temps dans le rush ou à passer du temps sur des tâches qui ont peu de valeur, voire pas du tout de valeur ajoutée, en tout cas qui n'aident pas à la construction du business, et sur des tâches comme la communication, qui pour moi devrait être une des tâches avec la prise de vue la plus importante dans une activité, bah, mettre très peu de temps et d'énergie là-dedans, tu vois. Est-ce que tu saurais dire, toi, idéalement, quand on se lance ou quand on veut vraiment percer, quel impact on peut avoir?
Ben moi, je la mettrais vraiment dans les priorités. Pas dans les priorités, enfin, ouais, dans une des priorités. Genre, mais même là, je dis, j'ai envie de passer 80%, mais je passe déjà beaucoup de temps en fait à communiquer. J'essaie d'être efficace. Des fois, je traîne trop sur des détails. Je me dis, oh là, j'ai trop traîné sur des trucs. Je dis, bon, c'est pas grave, ça a nourri ma partie créativité. Tu vois, j'essaie de me rassurer comme ça. Mais en vrai, il faut passer du temps à se montrer. Aller soit communiquer, soit prospecter directement, hein. Passer du temps derrière son ordinateur à contacter des gens ou à passer des appels téléphoniques, ou carrément à bouger et à se déplacer dans différents lieux à côté de chez soi. Et voilà, ce sont les stratégies, mais voilà, il faut faire ça, il faut se montrer, quoi.
À être visible.
Un max, un max.
Trop, trop bien. On arrive à la dernière question de cette interview. Comment tu vois, toi, personnellement, comment tu perçois l'évolution du marché de la photographie pour les prochaines années? Ça fait 10 ans que tu es là-dedans. Ça a déjà quand même pas mal changé, je trouve, en 10 ans. Est-ce qu'il y a des choses pour toi que tu vois se profiler sur l'évolution des mœurs sur pourquoi on fera appel à un photographe, comment on fera appel à un photographe, des choses comme
J'avoue que c'est un peu compliqué de se
ça.
projeter autant,
Oui, je sais que
même si
c'est pas évident comme question parce que c'est un peu un pari sur l'avenir, mais est-ce que tu as des ressentis peut-être, tu vois?
moi, mes ressentis enfin, de base, c'est que la photographie, pourtant c'est ce que je fais, de la photographie très naturelle. Je me dis que les gens vont, enfin, en tout cas, dans le quotidien, pas très naturel, mais en tout cas dans le quotidien, enfin, on va avoir tendance à baisser dans le sens où, bah, avec les appareils photo ou les téléphones qu'on a aujourd'hui, on peut quand même faire de belles photos. Voilà. Franchement, qu'on se dise, mais moi, au quotidien, j'ai des photos, je vais pas sortir mon appareil photo, je vais sortir mon téléphone pour mes gosses. Et franchement, je m'en contente. Et elles sont très bien. Donc, je pense qu'il y a ça. Donc, il faut vraiment. Je pense qu'il va falloir se différencier sur plusieurs choses. Soit on va créer quelque chose vraiment d'extraordinaire en termes de rendu. C'est-à-dire quelque chose de très artistique, quelque chose auquel on n'a pas accès de manière générale. Donc, l'accès à un studio, l'accès à plein de décors, l'accès à des choses qu'on ne peut pas faire soi. Voilà, je pense que le studio peut vraiment décoller à ce moment-là, mais pas le studio classique, vraiment studio très artistique en tout cas. Et je trouve que déjà, ça commence à revenir, la tendance commence à arriver, je trouve. Alors qu'elle s'était vachement estompée, on était heureux sur du lifestyle à fond et tout. Là, j'ai l'impression que ça revient. Par contre, pour le naturel, parce que moi, j'y crois toujours, et c'est un petit peu mon credo, donc j'ai bien intérêt à ce que ça dure. Moi, je vois, évidemment, on fera toujours mieux que les clients. Parce que c'est pas juste une question de bonne qualité, il y a une question aussi de sensibilité et de manière dont on regarde les choses. Donc la manière dont on va présenter un petit peu ces photos et le lien qu'on va créer avec les photos va faire la différence. Donc c'est la manière de présenter la chose, la séance. On avait parlé aussi d'expérience,
Ouais, l'expérience, ouais.
l'expérience qu'on va créer au travers de la séance photo, c'est-à-dire que réunir la famille, le fait aussi, moi j'y tiens beaucoup, mais le fait aussi d'être tous sur les photos. Parce que généralement, on a très rarement des photos tous ensemble. S'il y en a un qui est un peu passionné de photos, soit la papa, soit le papa, soit la maman, il va tout le temps bombarder les photos, mais de lui, ce sera des modes selfie, ce sera pas top. Donc, en fait, au bout d'un moment, il y aura toujours besoin d'un photographe pour que tout le monde soit réuni sur une photo. Donc ça, déjà, moi, j'y crois pour toujours. Donc, la famille, je pense que c'est vraiment le créneau à avoir aussi, si vraiment on veut durer dans le temps. Mais la famille et aussi le côté expérience qu'on va proposer, la manière dont on va l'amener, le côté émotionnel un petit peu de la photo, quoi.
Ouais, être dans une bulle, parce que malgré tout, tu vois, c'est déjà le cas depuis quelques années, c'est vachement développé, je trouve, ou de plus en plus, quand on vit une expérience avec un photographe ou une photographe, on est un peu dans une bulle, dans un instant T. De moins en moins, on fait des photos pour faire des photos, en fait. Parce que comme tu dis, tu as les smartphones qui sont très bons et qui vont devenir de plus en plus performant. Et du coup, on vient aussi pour quelque chose qu'on peut pas avoir finalement, nous. C'est-à-dire que une présence de toute la famille en même temps, quelque chose avec de très créatif, comme tu disais, sur le studio, de voilà. Ouais. Je trouve que c'est très pertinent.
Ouais, et puis tu sais, j'ai une copine qui s'est lancée il y a très peu là dans la photo. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle me parlait, elle me dit, je comprends pas, il y a une photographe à côté de chez moi. Bon, elle est là depuis des années, à côté de chez moi, proche de chez elle. Et tout le monde va vers elle. Même maintenant, ils savent que je suis là, ils vont quand même vers elle. Et moi, quand je publie un truc, j'ai beaucoup de vues, mais il n'y a personne qui m'appelle. Pourquoi ? Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as de plus du coup de cette photographe ? Vu qu'elle est là depuis longtemps, ils vont déjà chez elle et tout. Qu'est-ce que tu as de plus sur la photo ? Bah, elles sont belles, mes photos. Et franchement, elles sont... on n'a pas le même style, mais elles sont super belles, mes photos. Je dis, je vends une séance photo. Je lui dis, oui, ok. Mais moi, je suis cliente. Pourquoi aujourd'hui, je suis déjà chez une photographe chez qui je suis bien, en gros, qui fait de belles photos ? Pourquoi maintenant, j'irai chez toi ? Alors, tu proposes, ok, une séance photo avec des belles photos. Mais c'est quoi du coup ta valeur ajoutée là ? J'ai l'impression juste de voir la même chose. Sauf que je suis déjà bien là où je suis. Donc, ce serait quoi le petit truc qui ferait que je peux venir chez toi? Donc, je lui avais conseillé de... Je dis pour... Elle me dit, oui, mais moi, je veux juste faire de la photo. Je ne veux pas faire tout ça. Je lui dis, mais oui, mais... Je dis, un jour, tu feras peut-être que de la photo. Mais en tout cas, pour te démarquer aujourd'hui, peut-être qu'il faut mettre plus. En tout cas, dans le début, toi, ça va peut-être un conseil de plus. Mais du coup, peut-être qu'au lieu de proposer juste des séances photo enfants avec des enfants qui posent, alors qu'il y en a déjà une qui le fait à côté de toi et qu'il n'y a rien de plus, tu peux proposer... soit en partenariat, soit tu fais toi parce que t'es douée ou que voilà, mais une activité où les gens, les parents viennent, enfin avec leurs enfants, pas pour leur faire faire des photos, mais pour les amuser, les divertir pendant une heure. Donc à ce moment-là, ça peut être Halloween, ça peut être venez, comment on appelle ça, venez fabriquer votre propre citrouille pendant une heure, et vous êtes à tous les enfants, ils fabriquent leur citrouille, et puis tu leur fais des photos. Mais en attendant, du coup, ça va te faire connaître, tu vas faire des photos. Et ceux qu'elle est déjà chez l'autre, elle ne le fait pas ça. Donc là, ils viennent juste pour faire les citrouilles et en plus, elle le truc photo. Et après, tu les convertis avec plein de stratégies marketing derrière. Mais c'est un exemple parmi des milliers, mais... Mais voilà, il faut apporter un petit truc.
Est-ce que, derrière, c'est un peu le... Moi, je vois les choses, l'évolution comme ça aussi, ce besoin de... d'intégrer, je ne sais pas comment le dire, mais d'intégrer de plus en plus qui on est pour se démarquer. Non. Il y a l'aspect être singulier, c'est-à-dire que faire des belles photos, c'est la base et c'est hyper important. On pourra se démarquer avec l'expérience et aussi en mettant en lumière peut-être nos valeurs, qui on est profondément, ce qu'on a apporté, des idées aussi, la mise en avant des idées comme dont tu parlais, des concepts peut-être carrément, qui vont faire que les gens ils vont venir pour un ensemble de petits facteurs, encore une fois, comme tu disais, plein de petits éléments qui vont faire que tout mis bout à bout, ça va être hyper cohérent, ça va donner vachement envie. Et on pourra se dire, bah, en fait, c'est pertinent d'y aller parce que c'est un truc que je ne peux pas avoir comme ça seul chez moi. Quoi.
Oui. Mais après, moi, je trouve quand même que juste le fait d'être soi, des fois, il y en a plein hein, qui donnent des conseils comme ça. Genre, justement, être soi, je pense que quand toi-même, tu ne sais pas ce que tu aimes, encore comme je disais, surtout quand tu débutes et qu'au niveau de ton... C'est compliqué, tu vois. Donc, en fait, on va forcément un peu se calquer. Et puis, des fois, ça ne suffit pas aussi. On a beau être soi, avoir une super personnalité. Si on est juste soi et qu'on propose des photos, même en étant, voilà, je pense que ça peut être très long avant d'avoir de la visibilité. Donc, il faut vraiment, pour moi, hein, s'axer sur un truc qui soit bien plus profond, même si ce n'est pas toi tout de suite. Mais bon, il faut chercher quand même quelque chose qui t'attire un minimum. Il faut quand même aller chercher le petit truc pour montrer et faire un effort. Une entreprise, ça, j'ai déjà entendu mais plein de fois et ça ne m'atteignait pas au début. Mais en fait, ça devrait atteindre tout le monde, j'ai envie de le dire à tout le monde. Un projet, un business, une entreprise, quand on se projette, ça prend, ça tu as dû l'entendre, hein, toujours plus de temps que prévu, plus d'argent que prévu et plus d'investissement personnel que prévu. C'est toujours plus que ce qu'on imaginait. Et à partir de là, quand tu le sais, c'est donne tout maintenant, fais des efforts. Oui, c'est fatigant. Oui, en fait, tu peux faire des trucs que tu n'aimes pas, mais ce n'est pas tout le temps génial en fait. On vend le truc un peu, c'est tout le temps génial, mais non en fait. Si on veut atteindre le final où, en gros, on a trouvé sa routine où c'est génial, il y a quand même une grosse partie où il y a quand même plein de trucs chiants, quoi. Et plein de difficultés à passer. Donc, je pense que ça, il faut l'entendre aussi, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et ce que tu soulevais aussi, c'est important, c'est ce côté, je pense qu'on ne pourra plus passer, tu l'as dit dans un point précédent, mais à côté de son développement personnel, c'est-à-dire qu'à côté de ouais. Comprendre qui on est, comprendre ses forces, ses faiblesses aussi, où c'est que ça pêche, pour comprendre qu'est-ce qu'on a apporté, qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qui fait du sens. Et c'est un peu le Graal, le mettre au cœur de son activité, de son entreprise, pour avoir une synergie entre exactement ce que tu dis, tu vois, mettre beaucoup d'énergie, mettre beaucoup de passion pour avoir cette motivation-là et en plus se démarquer parce qu'on va grandir personnellement et quand on grandit personnellement, ben, ça a un impact énorme sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Non, mais totalement.
Trop, trop bien. Sarah, pour les oui. Personnes qui souhaitent te découvrir ou te redécouvrir, ils peuvent aller où ?
Instagram, évidemment, Sarah, S-A-R-A, de H, sinon, voilà, c'est pas pour le fun, c'est mon prénom qui s'écrit sans H, hein. Je précise, parce que des fois, il y en a qui mettent quand même des H, genre, c'est pour l'image de marque, mais non, pas de H. Donc, Sarah, S-A-R-A.ami, A-M-I.photographe. Et Ami, c'est aussi mon nom de famille, c'est pas pour le fun, c'est pas parce que je voulais le côté amical et tout, bon, même si, passé un moment, j'ai joué là-dessus, mais non, c'est mon nom de famille.
Trop, trop bien. Merci du fond du cœur, Sarah, pour tout ce que tu as partagé. Et puis, je te dis à très vite.
Merci à toi, Jérémy. Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à Sarah pour tous les bons conseils qu'elle nous a partagés. Je ne sais pas toi, mais moi j'adore rentrer dans la tête d'autres photographes pour comprendre leur état d'esprit et mettre en lumière les stratégies qui fonctionnent le mieux pour eux. Et en parlant de stratégie et d'état d'esprit, j'ai le plaisir de t'annoncer que Sarah fera partie des 8 mentors de mon prochain programme d'accompagnement. Alors, si tu veux avoir la chance d'échanger de vive voix avec Sarah, tu peux dès aujourd'hui rejoindre la liste d'attente du Winter Club pour recevoir le programme complet et en avant-première à partir du 21 octobre 2022. Je te dis à demain pour la troisième interview de cette série d'épisodes de podcast. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @jeremyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.